Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission Histoire d'en savoir plus. Et c'est de musique dont il sera question aujourd'hui. Histoire d'en savoir plus sur la mélodie française. Et pour en parler, je reçois Catherine Bouchard, musicologue et professeure de piano. Et elle est accompagnée d'Annie Loire, qui est pianiste, amoureuse de la musique et beaucoup d'autres choses encore. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je suis très heureuse.
Bonjour Annie.
Bonjour Bernadette.
Alors nous allons donc parler aujourd'hui de la mélodie française. C'est une musique particulière, ça. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom, Catherine ?
Il se passe un désir, d'abord, de conjuguer la poésie et la musique. Et ceci fut très rare en France, à l'époque de Berlioz.
On a peu de concerts de musique française, de mélodie française.
Beaucoup.
Mais par contre, on a beaucoup de CD. Donc on va en écouter ensemble aujourd'hui le maximum. On peut déjà commencer par un CD. Qu'est-ce que vous avez choisi
comme Alors musique? Écoutez, j'ai suivi ceux qui ont, après la mort de Berlioz, osé écrire des mélodies. Il y avait Lalo, il y avait Massenet, il y avait Gounod, il y avait Chabrier. Et nous allons écouter une œuvre de Chabrier qui est absolument délicieuse, qui annonce le printemps.
Lève-toi, lève-toi, le printemps vient de naître. Là-bas sur les vallons flottent les vermeils. Tout frissonne au jardin, tout chante et ta fenêtre. Comme un regard joyeux et plein de soleil. Du côté des lilas, on touffe violette. Du côté des lilas, mouches et papillons bruissent à la fois. Ses clochettes à réveiller l'amour, l'amour endormi dans les bois, à réveiller l'amour endormi dans les bois. Puisqu'avril a semé ses marguerites blanches, laisse ta menthe lourde et ton manchon frileux. Déjà l'oiseau t'appelle et tes sœurs les permanches te souriront dans l'air en voyant tes yeux bleus. Viens, partons au matin, la source est plus limpide. Lève-toi, viens, partons, n'attendons pas du jour les brûlantes chaleurs. Je veux mouiller mes pieds dans la rosée et te parler d'amour, d'amour sous les poiriers en fleurs, et te parler d'amour sous les poiriers en fleurs.
Vous écoutez Radio Grand-Selle et cette histoire d'en savoir plus. Catherine Bouchard, on voit bien que dans une mélodie française, on a un chanteur et puis un texte.
Et un accompagnement.
Et surtout un accompagnement.
Un piano, oui.
Et surtout un accompagnement. On peut dire que les premiers qui ont osé écrire des mélodies, après la mort de Berlioz, j'insiste beaucoup là-dessus.
Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait alors? Il n'y avait pas de mélodie française?
Non, c'était l'opéra.
Ah, très bien.
C'était l'opéra. Et c'est grâce à Saint-Saëns et à Gabriel Fauré qu'on a fondé la Société Nationale de Musique Française pour de la musique pure, dont la mélodie, qu'ils ont pu écrire. Alors, les premières mélodies, telles que nous venons d'entendre, celles de Chabrier, ce ne sont pas des textes merveilleux. Mais bientôt, quelqu'un comme Fauré va faire partie d'un texte, d'un cercle littéraire et va être très impressionné par ce qu'il entend et va nous donner les plus belles mélodies qu'on puisse rêver.
Alors, les mauvaises langues ont dit que c'était un genre salonard. C'est vrai que ce n'est pas très populaire, ce qu'on vient d'écouter.
Non, mais le quatuor non plus n'est pas très populaire. Et pourtant, ça n'est pas salonard. C'est salonard dans la mesure où ils ont commencé dans les salons artistiques. qui habitait Paris à cette époque.
Catherine est un peu piquée là, parce que je
vous
l'ai dit.
Oui, mais je crois que tu as raison de le souligner, parce que c'est vrai qu'on accuse cette musique d'être salonarde. Enfin, ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup, j'ai remarqué cela.
Oui, peut-être, peut-être. Mais quand on arrive au grand, tout ce que j'ai cité, Lalo, Bizet,
Gounod, Chabrier,
oui, etc., oui. on préparait la voie à Forêt, à Ravel et à Debussy.
Et bien sûr
à Duparc oui. Et plus loin à Poulenc.
On va revenir à la musique tout de suite, alors, si vous le voulez bien.
Alors, on va écouter une œuvre de Gabriel Fauré et on va tout de suite voir comme l'accompagnement est absolument extraordinaire et nous fait rêver des grands bateaux et des berceaux d'enfants que nous allons entendre.
On entend bien, on ressent bien là le bercement, Catherine Bouchard. Est-ce qu'on peut dire que c'est une musique intimiste ?
Oui, certainement, c'est une musique intimiste.
Oui.
C'est une musique, les Italiens appelaient ça la musica reservata. Voilà.
Ah, très bien. Et est-ce qu'il faut une voix particulière, que ce soit pour un homme ou une femme, pour chanter une mélodie française ? Oui.
Non, ce n'est pas obligatoire du tout. On peut très bien l'adapter à une voix féminine ou à une voix masculine, pas du tout.
Mais il y a peut-être, toutes les voix se prêtent à ces interprétations ? Ou il faut mieux être baryton, ou faut mieux...
Il faut mieux être baryton ou mezzo-soprane, je dirais.
Et puis elles sont transposées, n'est-ce pas, très souvent.
Oui, elles sont évidemment transposées.
Oui, elles sont à chaque fois transposées. Selon la voix à laquelle tu t'adresses, pour la chanter.
La hauteur de son va changer.
La hauteur de son, on le transpose. Alors, c'est écrit dans un ton naturel, c'est écrit par les compositeurs, bien sûr, mais c'est transposé selon la voix. Si tu es alto, tu ne peux pas chanter soprane.
Voilà. Etc. C'était le sens de ma question.
Oui.
On va écouter un troisième extrait. Vous pouvez nous le présenter peut-être, Catherine ?
Oui, alors j'aimerais vous présenter Henri Duparc. Henri Duparc est né en 1848 et nous a laissé 16 poèmes. Il n'a jamais écrit, il a écrit beaucoup, mais il a tout déchiré. En fait, c'était un esprit critique destructeur. Et pourtant, nous avoir laissé 16 mélodies, le genre certainement le plus difficile pour la voix, eh bien là, tous ces poèmes sont ouverts sur l'infini. L'accompagnement est plus symphonique, les ressources de la voix sont sollicitées jusqu'à l'extrême, le piano est orchestral. Pour moi, c'est une merveille. Et il a choisi un poète merveilleux, c'est Baudelaire. La vie antérieure. J'ai longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux.
Catherine Bouchard, est-ce qu'on peut dire que là, le piano se fait accompagnateur dans cette mélodie ?
Non, il n'est pas accompagnateur. Il est vivant, il est là, il est présent et il nous apporte énormément. Il n'est pas seulement accompagnateur. Bien sûr, il soutient la voix, mais il est beaucoup plus que ça. Il est symphonique, il est orchestral par moments. Non, c'est, il y a une vraie présence dans ce piano. Et on va le retrouver chez Debussy.
Chez Debussy ? Oui. Oui. Est-ce qu'il y aura une évolution dans la mélodie française ?
Il y aura une grande évolution à l'époque de Debussy. Debussy est né en 1862 et la maturation de son style va se manifester dans ses premières années dans les mélodies, grâce aux mélodies. Alors, il va utiliser un tissu harmonique où les attractions tonales n'existent plus.
C'est-à-dire
que dans la tonalité, nous avons trois sons aimés. Nous avons la tonale, la tonique, le do par exemple, si nous sommes en do, le sol qui est la dominante, et puis nous avons le si qui est la sensible. C'est cette espèce de petite sensible qui désire aller ailleurs, voilà, et qui fait tout le fruit du romantisme. Eh bien, Debussy va l'éviter. Et puis, va nous donner la gamme par ton. C'est-à-dire une gamme avec seulement des tons. Et la voix va nous sembler presque terne, mais beaucoup plus profonde que terne.
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de demi-tons, je reviens à ce que tu disais, des tons. Voilà, il n'y aura plus d'intervalles plus petits.
Il n'y aura que des tons. C'est un moment merveilleux et c'est le moment où Proust va écrire et ses œuvres merveilleuses et va beaucoup aimer Debussy. Debussy fait partie du salon de Mallarmé. Et Mallarmé est un symboliste et Debussy est un symboliste. C'est-à-dire, rien n'est laissé au hasard. La chevelure que nous allons écouter, c'est la féminité. L'anneau, c'est la fidélité. L'eau, c'est la pureté.
Donc il y a vraiment une traduction des mots en musique.
C'est ça.
Thank you.
pense, n'est-ce pas, Catherine, on pense à la chevelure, à l'importance de la chevelure dans Péléas et Mélisande, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, tout à fait, en haut de sa tour.
En haut de sa tour, l'importance que ça a pour Péléas, symbole aussi de cette chevelure.
Féminine. C'est vraiment le symbole de la femme, de la féminité.
Oui.
Alors, vous n'avez pas l'image, c'est bien dommage pour vous, parce que les musiciennes tapotaient sur la table du studio comme si elles étaient devant un piano, et en plus, elles chantonnaient. Catherine, de qui voulez-vous nous parler maintenant?
Eh bien, j'aimerais vous parler de Ravel, Maurice Ravel, qui est né en 1875. Alors, on l'a longtemps considéré, enfin dans sa jeunesse, on l'a considéré comme un imitateur de Debussy.
Ah.
Oui, il partage avec Debussy une certaine recherche de la couleur. Mais Ravel s'affirme en opposition avec l'impressionnisme et le symbolisme de Debussy. Il se réfère au modèle classique. Il a un goût extrêmement raffiné pour l'harmonie. Et il aime les constructions symétriques. Il aime la mélodie, bien sûr. Et nous allons écouter la flûte enchantée de Pierre Louis, qui est une petite merveille. L'ombre est douce et mon maître d'or.
Influencé par l'Orient, peut-être?
Tout à fait. Mmh. C'est l'époque de l'exposition universelle. Mmh. Et tous les deux ont été extrêmement impressionnés par la musique javanaise. Mmh. Tu as raison de le dire.
Est-ce qu'il y aura une mélodie contemporaine, Catherine?
Oui, il y a une mélodie contemporaine, spécialement en Angleterre.
Alors, je vous propose de revenir dans le studio de Radio Grand Ciel un prochain jour. Et à ce moment-là, nous écouterons encore de la mélodie. Ça sera plutôt de la mélodie anglaise, alors.
Britain? Oui, enfin, Britain en particulier.
Benjamin Britain.
Mais bien sûr, mais il y a aussi de la française. Il y a Poulenc, il y a tous ces gens-là, il y a Millot, il y a... Si, quand même.
On arrive à la fin de cette émission. Merci à Simon qui a assuré la technique. Mais on va se quitter en écoutant Poulenc.
On va écouter le pont de C sur un poème d'Arago. Ça n'est pas tout à fait un portrait de Poulenc que je vous donne, car Poulenc, c'est ce qu'on appelle un moine défroqué. Il est né en 1892, il nous fait rire, il nous fait chanter. Et là, au contraire, c'est la guerre de 40 et il se penche sur ce fameux pont de C qui va malheureusement voir les troupes allemandes débarquer.